Vous êtes bien sur une émission de Radio Saint-Ferréol.
Ici et d'ailleurs, une émission sur les migrations.
Migration d'ailleurs vers ici, d'ici vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
Un invité.
Son témoignage.
Son parcours.
Son expérience.
Des chroniques.
Géopolitiques.
Juridiques.
Linguistiques.
Et bonsoir à tous, donc on est dans le studio de Saint-Ferréol avec Chris qui vient représenter Exilé et Crétois. Bonsoir Chris.
Bonsoir.
Ça va bien ?
Oui, ça va.
Super. On est avec Richard qui vient nous présenter divers témoignages et peut-être philosopher un petit peu puisque c'est un peu un des points forts de notre invité Chris. Je crois que tu as étudié un petit peu la philosophie, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Ok. Donc, on aura un regard un petit peu tout en hauteur et philosophie sur une thématique très importante qui nous tient à cœur vu que c'est le thème de l'émission. C'est notre première émission thématique et on est aussi en présence de Sarah qui est à l'initiative un petit peu de cette émission. C'était l'occasion de le dire aussi. Sarah, tu vas bien ?
Ça va bien.
Super. Donc, Sarah, tu vas... Et moi-même, Jean-Denis, à la technique. Et tu, Sarah, tu nous présentes un petit peu comment on va présenter un peu cette émission et de, en quoi elle consiste ?
Oui, cette émission est un peu différente des autres émissions qu'on fait, puisque d'habitude, on invite, il y a un invité et c'est à partir de son parcours de vie, puisque c'est ici et d'ailleurs, donc ce qu'il vit à Cray et ce qu'il a vécu dans son pays. Aujourd'hui, donc, comme a dit Jean-Denis, c'est une émission thématique, c'est l'accueil. Pourquoi une émission sur l'accueil ? Ben parce que on pense que contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est pas l'immigration qui est un problème, c'est pas les immigrés qui sont des problèmes, c'est l'accueil qu'on leur réserve. Et c'est pour ça que ça nous paraissait intéressant de faire cette émission. Il va y avoir effectivement plusieurs témoignages. On va du reste commencer par un témoignage de Lisa qui a passé plusieurs mois à Calais et qui donc donne un témoignage sur l'accueil. Donc là, c'est pas local, mais ça nous paraissait intéressant de parler de ce qui se passe là-bas. Et il y aura à la fin de l'émission des témoignages sur Briançon, qui ne sont pas c'est pas local non plus, mais en fait, c'est des témoignages de ce qui se passe aux frontières. Voilà, et puis entre-temps, on va avoir des échanges avec Chris sur Exil et Crétois. On abordera aussi les autres associations qui sont plus locales et qui font de l'accueil. Je voudrais faire une petite précision avant qu'on entende Lisa, c'est que on va parler aujourd'hui de l'accueil des personnes qui arrivent et qui vont a priori faire une demande d'asile, en tout cas qui arrivent comme réfugiés et qui n'arrivent pas. On va pas parler des personnes qui arrivent avec des contrats étudiants, travailleurs, regroupement familial, parce que on peut pas parler de tout dans une émission et ça serait intéressant d'en faire une autre pour les autres statuts.
À Exilé et Crétois, votre public, c'est des gens qui n'ont pas de papier, Chris ?
Oui, l'Exilé et Crétois accueille des personnes qui n'ont pas de papier, donc, c'est-à-dire qui sont déboutées par la CNDEA et l'OFPRA.
Est-ce que tu peux en préciser les sigles OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ?
Oui,
parce
c'est
qu'en
ça.
Fait, les sigles, oui, les gens ne connaissent pas bien. Mm-hmm.
Et la CNDEA, c'est la Cour nationale des droits d'asile.
Alors, on fera peut-être un petit point, ou alors je le fais maintenant, avant qu'on entende Lisa. Pourquoi pas, sur le droit d'asile
Comme tu veux.
En fait, ce qu'il faut savoir sur le droit d'asile, c'est qu'il est régi par des conventions internationales. C'est un droit reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention de Genève du 27 juillet 1951. En France, le statut de réfugié doit être demandé donc à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Et il existe deux formes de protection au titre de l'asile, le statut de réfugié et la protection subsidiaire.
Alors, c'est quoi la distinction entre les deux ?
Alors, le statut de réfugié est accordé à toute personne craignant d'être persécutée dans son pays du fait de son appartenance à un groupe social ou ethnique, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. Et cette personne obtiendra une carte de résident de 10 ans renouvelable. Si l'OFPRA reconnaît les risques encourus et lui donne le droit d'asile. La protection subsidiaire est attribuée à une personne qui ne remplit pas les conditions du statut de réfugié, mais qui est exposée dans son pays à l'un des risques suivants, peine de mort, torture, peine ou traitement inhumain ou dégradant, menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle. Donc c'est plus ponctuel, je dirais, pour les états de guerre, enfin les pays qui sont en guerre ou autres. Et cette personne, du coup, aura une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans.
Est-ce que, toi, Chris, tu connaissais cette distinction ? Vous en parlez à Exilé et Crétois, ça te parle ?
Cette distinction, l'exilé et Crétois, elle le sait très bien.
Oui.
Et puis, personnellement aussi, je connais comment se passe ces genres de procédures.
Richard, tu voulais rajouter quelque chose ?
On peut préciser qu'il y a les procédures de réadmission et les procédures de relocalisation, qui sont deux choses. La réadmission, c'est si le migrant est amené à quitter un pays en conflit, par exemple, il peut être réadmis dans un pays sur le parcours de migration. Bon, pas, du coup, c'est pas le pays de son choix, hein, ça, c'est un fait. Donc, et après, la relocalisation, c'est à l'intérieur de l'espace Schengen, donc où il y a la procédure Dublin et où des pays sont solidaires d'autres pays où il y aurait beaucoup de retours dans le cadre de procédure Dublin et qui relocalisent les Dublinais. Voilà, c'est une procédure. Mais quand on regarde les chiffres, il y avait un objectif de 160 000 relocalisations par an et dans les faits, on en est à 34 000 sur le continent européen. Voilà, il faut se méfier de ce genre de statuts qui sont des statuts un peu plus précaires que justement tu venais de le dire, Chris, que le statut offert par l'OFPRA, quoi.
Je vais aussi ajouter un élément. Si par exemple l'OFPRA ne vous statue pas comme étant un réfugié, donc c'est-à-dire que votre problème, l'OFPRA n'a pas reconnu finalement le problème afin de vous statuer comme étant un réfugié. Donc il s'est senti à son niveau incapable de pouvoir comprendre votre affaire. Alors il vous renvoie à la scène DEA et c'est à lui maintenant de prendre des précautions et de connaître réellement votre problème et de vous attribuer si et seulement si il comprend, il arrive à analyser et puis il vous attribue les titres.
Ok, ouais. Alors,
je voudrais juste rajouter une chose, c'est que aussi, d'après ce que j'ai entendu, donc la source n'est pas vérifiée, mais elle m'a, je l'ai entendu quand même plusieurs fois. Bon, c'est peut-être une position plus qu'un fait réel, mais a priori, l'OFPRA aurait aussi des listes de pays qu'il considère sûrs. Donc, si vous venez d'un pays que l'OFPRA considère sûr, il y a très peu de chances que, même si vous, à votre niveau personnel, vous avez des risques d'être torturé, emprisonné ou tué, l'OFPRA n'entendra même pas votre histoire, en fait.
Ah oui, jusque-là, ouais.
Enfin, ils écouteront l'histoire, mais...
Ils ont une liste de pays pour filtrer...
A priori, ils ont quand même une liste de pays où...
Ok. Bon, c'est... Oh. Moi, j'avais pas du tout ça en tête. Je crois que j'ai à peu près compris. J'espère que les gens qui écoutent également.
Et c'est sûr que ces choses qui sont très très liées, comme tu viens de dire, Sarah, à l'origine du migrant, ça amène des inégalités de traitement sur le parcours lui-même. Et bien ces inégalités de traitement elles sont plus apparentes aux frontières. C'est sûr que c'est là où elles vont se concentrer, hein, de fait. Voilà, moi, sur les témoignages qu'on a reçus, comment on peut les introduire, c'est comme ça, c'est l'absurdité des situations où Lisa, qui a donc été bénévole à Calais, elle nous alerte sur le fait que de temps en temps, intérieurement, elle est plus heureuse quand un migrant va franchir la Manche que quand il est amené à poursuivre son parcours migratoire en France parce que les conditions sont trop fermées, trop dures, trop inégalitaires.
Je propose qu'on l'écoute, du coup, puisque tu as fait une très bonne introduction en parlant de Lisa, et je propose qu'on écoute son témoignage.
On écoute son témoignage, donc Richard, c'est toi qui l'as rencontré et interviewé, et on écoute ça maintenant. C'est à toi ?
Ça me va.
Allez, c'est parti.
Absurde. Seul mot que m'inspire cette expérience. Les exilés n'ont pas le droit de traverser la frontière faute de visa. Qui prend ces décisions ? Sur quels critères ? En tout cas, ils ont fui une situation subie, et même s'ils en ont les moyens financiers, un métier, des études, la connaissance de l'anglais pour certains, ils sont persona non grata sous nos latitudes. Ceux de Calais veulent traverser la Manche pour rejoindre de la famille de l'autre côté, ou parce qu'ils parlent anglais. Mais le Royaume-Uni n'en veut pas. L'État britannique paie les autorités françaises pour les empêcher de passer la Manche. En France non plus, ils ne sont pas bienvenus, en transit, souvent stagnant. Il faut attendre les bonnes conditions météo pour embarquer sur ces eaux capricieuses, au prix de mois d'attente, dans des conditions que j'avais correctement imaginées, mais qui de visu dépassent l'entendement. D'écrire, ok, si ça peut aider. En réalité, j'ai envie d'inviter nos cols blancs, costards, avec ou sans cravate, ces décideurs qui, aveuglément, obéissent à leur cortex, régi par la peur, l'ignorance. L'ignorance de leur sourire, leur gentillesse malgré la détresse, leur souffrance muette sous la pluie, le vent, le gel, leur attente désespérée de retrouver ce qu'ils ont quitté pour des raisons valables. Retrouver quoi ? Simplement un toit, un foyer, un métier, continuer de vivre normalement. Je les admire. Quel courage ! Je m'endors en pensant à eux. Calais une fois, Calais à vie, je reviendrai, mais c'est tellement absurde. D'abord, les lieux de vie, que d'autres appellent des camps, mais ce sont les lieux où ils survivent. Aspect prédominant, la boue. Nous, les bénévoles, on est à l'abri avec nos bottes en caoutchouc. Eux, ils ont usé leurs souliers pendant des centaines, parfois des milliers de kilomètres. Oui, les assos distribuent des chaussures, c'est bien. Chaussures convoitées, le temps de les acquérir, puis donner avec bonne conscience, car la mode est passée, au pire. Ou que les pieds ont grandi, au mieux. Sauf que ces chaussures, dans 10, 15, 20, voire plus de centimètres de gadou, parfois on préfère les indestructibles savates en plastique, et tant pis si c'est froid et qu'on a les pieds sales. Un homme seul qui a besoin d'un hébergement d'urgence aura droit à une bâche et une couverture. Ces bâches bleues, symboles d'abri précaire, et pourtant si convoitées par les équipes de nettoyage qui les réquisitionnent, au cours des opérations d'éviction pour soi-disant délit de flagrance. L'idée de ce délit, c'est d'empêcher le squat. Donc, des budgets faramineux sont dépensés pour déplacer des escadrons de CRS, policiers, toutes les 48 heures, pour leur demander froidement de bouger de quelques mètres, à savoir hors périmètre, au mieux, ou au pire, pour leur confisquer leur abri de fortune, en arrêter quelques-uns, sans raison claire. On s'habitue à tout ? Pas sûr. Faire son baluchon toutes les 48 heures, parfois tous les jours, pour pouvoir dormir à nouveau le soir même, en attendant le jour où ils passeront, espérons-le, sains et saufs. Dorment-ils vraiment ? À quoi rêvent-ils ? Comment ne perdent-ils pas la foi, quelle qu'elle soit, en Dieu, en la vie, en l'humanité ? Je ne suis pas eux. L'expérience, j'en suis témoin, et je ne parviens pas à comprendre comment ils font pour garder espoir et patience. Certains le perdent. En témoigne un suicide, il y a quelques jours encore. Je ne connais pas les conditions estivales, mais dans ces terrains marécageux, je n'ose imaginer avec les moustiques. Dans la boue, pour y évoluer, on trouve de tout. Pneus abandonnés, troncs, planches de fortune, couvertures et tentes rendues inutilisables. Car les premières, les couvertures, ne sécheront pas sous les pluies continues, ou les secondes, les tentes, ont malencontreusement été rendues hors d'usage lors d'une intervention policière. Le bois qu'on livre pour les réchauffer succinctement peut aussi servir de maigre parterre. Ils sont jeunes, sortis de l'âge tendre pour certains, de l'adolescence pour d'autres. Des visages d'anges, leurs mains sur le cœur pour nous remercier quand on passe, nous remercier de mettre un pansement sur une fracture, la fracture de notre système mortifère, qui continue de considérer des frères et sœurs comme illégitimes, interdits de territoire pour cause de naissance au mauvais endroit. On leur évite, en est-on sûr, de mourir de froid dans ces conditions insalubres, tandis que des appartements de fonction ou des résidences secondaires sont vides, des chambres vidées de leurs enfants devenus grands qui servent de débarras à des tas de citoyens européens, chambres d'amis vacantes, HLM non pourvues, bureaux désaffectés, hôtels incomplets, églises fermées, tous ces toits qui pourraient les abriter gracieusement, le temps que. Mais ce n'est même pas là la question. Pourquoi n'ont-ils pas d'autre choix que de perdre leur dignité, ou plutôt l'accroître vu leur beauté d'âme face à l'épreuve? Les frontières, ça me semblait un peu utopiste de les supprimer. Maintenant, je me dis que c'est juste un crime que de les conserver. C'est à cause de ce concept ubuesque, une ligne sur une carte, que ce tri inique catégorisant des êtres s'opère. Venez, vous, les patrons, les politiciens, les occidentaux, les riches, les bien-pensants, vous qui ne connaissez qu'en théorie, venez les aider, voir de vos propres yeux et interagir. Nos pays n'en veulent pas, et pourtant, eux, ils nous accueillent sur ces terres chèrement barricadées que nous avons qualifiées comme nôtres. Une main ouverte pour nous offrir un café chauffé sur les rondins dans une boîte de conserve. Une chaise sans dossier, délicatement époustée, pour accueillir nos postérieurs sagement à l'abri dans nos surpantalons imperméables. Un repas partagé à même la casserole avec le pain rompu en guise de cuillère. Des regards aimants, reconnaissants, quand la langue ne sait pas dire merci ou n'ose pas. Je n'avais jamais imaginé que l'horreur puisse cohabiter avec tant de générosité et d'humilité. Calais, l'espace où la froideur des démarches d'exaction, l'humour grinçant des uniformes, la cruauté administrative, contraste avec le cœur pur, la tendresse, la vaillance de ces déracinés, où la précarité et l'insalubrité révèlent à la fois la méchanceté de nos peurs incohérentes et subliment notre nature fraternelle, aimante, solidaire, en laquelle nombre de personnes amollies par leur sacro-saint confort ne croient plus. Les bras m'en tombent. Les jours se ressemblent, et pourtant je ne m'habitue pas à toutes ces incohérences, et tant mieux. Ce serait me robotiser que de banaliser ce spectacle si poignant. Les traversées souvent échouées, le pire, hypothermie, attente des secours incrédules dans les eaux froides, savoir qu'il faudra recommencer, mais qu'en attendant, on est mouillé, grelottant, découragé. Je n'ai pas fait de maraude littorale nocturne, ça m'effraie. Les témoignages de mes comparses à ce sujet me bousculent. Peut-être que j'irai, mais j'ai tellement honte d'être citoyenne légitime dans ce pays qui les rejette. Honte de mon pays, de l'Europe, de l'Occident. Pourquoi ai-je le droit d'aller où je veux au nom de ma nationalité? Pourquoi ça n'est pas un droit réciproque?
Est-ce que tu pensais que ça serait si fort pour toi que ça te donne tant que ça l'envie de retourner une autre année?
Bah ça c'est quelque chose qui m'a tout de suite étonnée quand je suis rentrée dans cette maison où je demandais aux gens t'es déjà venue à Calais et que la plupart ça faisait plusieurs hivers. Et moi je commençais tout juste et je me disais c'est dur, enfin je sais pas si je serais capable de le faire une année supplémentaire. Mais en fait une fois qu'on l'a vécu, moi maintenant, alors ça fait un an hein, qui s'est écoulé, et en ce moment il y a des inondations, des crues énormes. Je ne peux m'empêcher, enfin je pourrais plus dormir tant qu'il y aura des frontières, donc des situations macabres comme celle-là existant à nos frontières européennes. Je pourrais plus jamais dormir sachant ces conditions météorologiques, mais de toute façon même sachant que ça existe, sans y penser, sans me sentir sans me dire bah pourvu que ils trouvent le sommeil. Et pourvu qu'à un moment donné, ils finissent par trouver refuge à un endroit digne d'un tout être humain, en fait, et que leur voyage douloureux trouve destination, quoi, en fait. C'est tout ce que tout être humain... Donc oui, j'ai terriblement envie d'y retourner. Mmh. Et je le ferai, j'espère, si mes moyens physiques me le permettent. Pour un peu conclure, j'ai juste envie de... Parce que cette année, on m'a demandé, ils avaient besoin encore, hein, ils ont besoin tous les ans. En tout cas, Woodyard, ça dure de... Donc on distribue du bois pour toute la période hivernale, donc de fin septembre, je crois, à presque mai. Et donc, il y a toujours besoin de personnes. Moi, je suis engagée dans un contrat de travail, là, en ce moment, donc je ne pouvais pas être là cette année. Mais voilà, donc j'encourage les gens qui ont un peu de temps, un peu de... et l'envie d'aller aider, n'hésitez pas à contacter l'auberge des migrants. Ça peut être pour couper des légumes, pour les repas du midi, ça peut être pour en distribuer des repas, ça peut être pour gérer tout ce qui est vêtements, tentes, etc. Bref, n'hésitez pas à aller faire cette expérience. Même si, c'est ce que je dis, hein, c'est un pansement sur une fracture systémique, mais c'est indispensable qu'il y ait des infirmiers de ce système, en attendant que les frontières sautent, peut-être, un jour.
Vous êtes sur Radio Saint-Féréol, 94.2, dans une émission de Ici et d'ailleurs. Et ce soir, nous parlons de l'accueil. Vous venez d'entendre Lisa, qui nous a un témoignage de ce qu'elle a pu voir et vivre à Calais. Et notre invité aujourd'hui, c'est Chris, qui représente Exilés Crétois. Et je voulais te demander, Chris, de réagir en fait à ce témoignage.
C'est un témoignage qui m'a beaucoup touché, parce que j'ai pensé à toutes ces personnes qui ont traversé difficilement la mer, qui ont quitté difficilement leur pays pour arriver à la frontière de France, à Italie ou d'autres pays. Et malheureusement, ces personnes, elles ne sont pas bien accueillies. Et le problème, pour moi, je trouve au niveau de la politique. Donc, la politique a oublié l'essence de l'hospitalité. Il a, en fait, politisé l'accueil. Donc, il n'y a pas l'accueil à son vrai sens. Plutôt, il y a une question de choix. Il y a une question de choix. Et ce sont ces migrants, ces demandeurs d'asile qui souffrent, qui périssent et d'autres meurent. Et on se pose la question, où se trouve réellement le vrai accueil? Où se trouve réellement l'idéal de l'accueil? Où se trouve l'hospitalité de l'Europe?
Lisa, elle pointait dans son intervention l'incohérence des peurs et comment ça peut être méchant de d'être en face de la peur de quelqu'un. Je sais pas si tu peux. C'est ce que tu disais, qu'il y a institutionnellement il y avait quelque chose de violent pour toi.
La question de la peur, par exemple, je le souligne. Pourquoi? Parce que en attendant Lisa faire son témoignage, je pense que lorsque les migrants ou les demandeurs d'asile se présentent en Europe, il y a déjà cette question de la peur. La peur, elle est réciproque. Donc c'est-à-dire le personne qui accueille, ils ont déjà dans leur tête cette peur de pouvoir accueillir les personnes qui arrivent. Et puis les personnes qui arrivent, eux par contre aussi, ils ont cette peur dans leur tête. Est-ce que nous serons très bien accueillis? Nous ne serons pas tués? On ne sera pas refoulés? voilà un peu de tels types de questions qui engendrent de la peur aux migrants. Et d'autres choses aussi, il y a la grande peur de ceux qui accueillent. Donc, ils estiment que ces personnes, ils sont considérés comme étant des ennemis. Ils sont considérés comme étant des voyous, comme étant des voleurs, comme étant des délinquants. Ils sentent mauvais. Et là, je vais souligner l'auteur anthropologue et philosophe Michel Agé, qui parle de la peur des autres, et c'est sur l'indésirabilité. Donc, on ne conçoit pas l'autre à ma face comme étant un être humain, mais comme étant mon ennemi, comme étant une chose. Donc, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Et du coup, je dois les chosifier, je dois les considérer comme je veux. Donc, il n'a pas de valeur. Voilà. Déjà, avec cette notion des personnes qui accueillent, ça bloque l'hospitalité.
Mais je trouve, oui, tu l'as très bien dit tout à l'heure aussi quand tu parles de politiser l'accueil.
Oui, donc j'ai dit politiser l'accueil, c'est-à-dire comme Richard disait tout à l'heure là, qu'il y a une liste en fait des pays qui sont considérés pour être très bien accueillis, pour recevoir ses droits. Et par contre, il y a aussi de ces gens-là, malgré leur histoire, malgré leurs différents problèmes venant du pays, ils ne sont pas très bien accueillis. Et du coup, j'utilise les concepts que l'État a politisé l'accueil, a politisé l'hospitalité.
Bah, on est tous conscients de ça parce que c'est moi qui écoute un petit peu les actualités et tout ça, oui. C'est un thème récurrent. Pour le pire ou le meilleur, on verra bien. Oui. Et moi, j'ai entendu une question dans le témoignage de Lisa qu'elle pose. Peut-être Exilé Crétois peut avancer une réponse, ou toi plus personnellement, elle demande comment on fait pour garder de l'espoir, et elle conclut aussi un petit peu en demandant quelque chose d'un peu plus pragmatique. Elle parle de, en tant qu'individu migrant, à quel moment on considère une destination, c'est-à-dire à quel moment on est arrivé en fait dans un exil. Elle parle de l'espoir, comment on fait pour garder l'espoir, rester accueillant alors qu'on n'est pas bien accueilli, tout ça. Et après, il y a cette deuxième notion, je ne sais pas si tu veux réagir à l'une des deux ou aux deux, un peu la finalité d'un parcours migratoire.
Je vais intervenir à la première question, garder l'espoir. Il est très difficile de pouvoir garder l'espoir dans une terre où tu n'es pas considéré, dans une terre où tu es limité, tu es bloqué. Il est tellement difficile. Il est difficile, pourquoi ? Parce que je peux vous parler aussi de mon expérience étant que demandeur d'asile. C'est pas vraiment facile. C'est pourquoi vous voyez, il y a plusieurs personnes qui tombent à la dépression à cause de cette mal considération, à cause de ne pas recevoir ses droits, de ne pas être bien accueilli. Pour moi, je trouve que c'est très difficile. Mais c'est très difficile. Perdre l'espoir. Est-ce que je continuerai de vivre? Aurais-je une vie? Est-ce que ma vie aura un sens si je continue de garder l'espoir? Ce sont des questions fondamentales et difficiles à répondre. Mais au-delà de ces questions, je trouve que quelque part, il y a une réponse d'assurance. Que dans les êtres humains, il y a une particularité du bien en chacun. Si par exemple, l'État ne m'accueille pas, ce n'est pas toute l'Europe ou tous les Français qui me refuseront. mais il y aura parmi eux une partie des Français ou des Italiens qui auront besoin de moi, qui me prendront, qui m'aideront pour garder cet espoir. Mais personnellement parlant, individuellement parlant, sans l'aide de ces personnes, on ne peut rien faire. Et on peut totalement perdre son espoir et tomber même à la dépression. C'est pourquoi vous les voyez quand vous vous promenez, vous trouvez des personnes qui parlent seules, et d'autres même déjà psychologiquement et mentalement ça ne fonctionne plus bien à cause de cette privation des droits. Et c'est vraiment trop difficile, il y a même des notions psychologiques là.
Ouais.
Lorsque vous allez par exemple à l'asile.com, il y a l'association des psychologues qui sont très bien en place pour accueillir les migrants, les demandeurs d'asile qui arrivent, pour les aider à pouvoir se dégager, de ne pas se recroqueviller pour amasser toutes les difficultés dans la tête, mais de pouvoir plutôt se libérer. Alors quand on ne se libère pas, on devient comme un fou à la rue. On parle pas. Pourquoi ? Parce qu'on est dépassé. On est dépassé. Pourquoi ? Parce que on regarde là où je viens, les différents pays que j'ai traversés, les risques, toutes ces difficultés-là et tous les problèmes de la personne qu'il a vécu dans son pays. Il arrive ici, il se sent ne pas être accueilli, il se sent délaissé, il se sent sévré et limité. Et du coup, elle se pose la question, quel est le sens du sens de la vie pour lui?
Et pour toi, quel serait un accueil idéal qui permettrait justement à une personne qui arrive de retrouver confiance en lui, de garder l'espoir, de se sentir arrivé?
Oui, premièrement, je voudrais, avant que je réponde à la question, de se limiter d'abord à la signification de l'accueil, de signifier c'est quoi d'abord l'accueil. Alors j'ai lu certains auteurs comme Emmanuel Kant dans La paix perpétuelle. Il dit l'accueil, c'est le droit de l'étranger à son arrivée dans les territoires d'autrui de ne pas être traité en ennemi. Voilà. Et il ajoute, l'accueil est une philosophie de vie.
Ouais.
Donc, l'accueil, pour qu'il soit idéal, il doit être inconditionnel, comme l'a dit Anna Arendt dans la notion de l'hospitalité. Et pour finir à votre question, je vais lire ces passages d'Emmanuel Kant sur la métaphysique des mœurs. Il dit « Agis donc de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en tant comme une fin et jamais comme un moyen. C'est-à-dire traiter autre comme soi-même. » Déjà avec ces principes, lorsque l'Europe l'en possède, lorsque l'Europe les connaît si bien, je crois qu'il y aura un accueil idéal, un accueil inconditionnel, un accueil qui ne choisira pas telle personne. Il vient de tel pays, il vient du Congo, il vient du Brazza, il vient de l'Angola, du Cameroun, du Côte d'Ivoire, parce que tel pays est protégé parce que tel pays est dans notre liste. Non, mais s'il y a l'accueil inconditionnel, nous pouvons réussir et mettre la paix sur les différents problèmes que les migrants possèdent, que les migrants ont.
Richard, voilà, tu veux intervenir?
J'étais surtout pour poser des questions à Chris.
Je propose que tu poses une question et après on va écouter un peu de musique. Parce que
ah oui, ça
Chris
fait
40
minutes qu'on a commencé.
Et Chris a dit beaucoup de choses qui font réfléchir. Et
alors on met un peu de musique et tu enchaînes après, ça te va?
Si vous voulez, allez.
Allez, ça marche. Donc là j'envoie une chanson donc, que tu as choisie, Sarah, t'en as trouvé trois.
Laquelle tu vas envoyer?
Je ne sais pas encore où je vais cliquer, il y en a trois dont le point commun est que le titre est Réfugié, c'est bien ça?
C'est bien ça, et ben je dirai après qui c'était.
Chacun son bang bambou, chaque bang bang son disque assis sur Tralix, soyons trempés, mais c'est la boupeya.
Vous êtes sur Radio Saint-Ferréol 94.2 et on vient d'entendre Ismaël Isaac. L'émission aujourd'hui, de ici et d'ailleurs, c'est sur l'accueil. Richard, tu avais une question à poser à notre invité, Chris.
On peut, on peut repartir sur l'encadrement législatif de l'hébergement des demandeurs d'asile, qui est consacré comme une liberté fondamentale d'après le Conseil d'État. Il l'a consacré trois fois d'ailleurs en 2012, 2015, 2017. Lorsque les personnes sont sans conditions d'accueil digne ou d'accès à un logement d'urgence, l'État a une obligation de faire respecter le principe de dignité humaine et de protection contre les traitements inhumains et dégradants. Alors voilà, donc on se rend compte que l'État est bien en deçà de cette... De cet impératif-là. Et c'est ça qui nous amène à parler ce soir. On peut te remercier, Chris, notamment pour ton engagement auprès d'Exilés Crétois.
Merci.
Voilà. Comment tu as commencé avec Exilés Crétois et qu'est-ce que c'était via une personne qui est aussi à Saint-Vincent-de-Paul, c'est ça?
Premièrement, j'ai passé des moments durs d'abord et j'ai dormi 4 jours à la rue à Valenceville, 4 jours, et c'était au mois de janvier. Et j'ai connu l'exilé écrétois par l'aide de l'association Saint-Vincent-de-Paul. Et Saint-Vincent-de-Paul m'a beaucoup aidé au début et m'a fait connaître à une dame chez qui je suis actuellement. Et cette dame est de l'exilé écrétois. Et c'est cette dame qui m'a fait donc connaître à l'exilé écrétois. Et l'exilé écrétois a accepté de pouvoir me payer les loyers chaque fin de mois. L'exilé crétois dont me paye les loyers. J'ai un studio, j'ai une chambre et la cuisine et puis la salle de bain. Donc je vis tout seul et grâce à l'exilé crétois. Et c'est une très bonne association. Pourquoi? Parce que je la remercie, parce que sans elle, je pouvais me retrouver toujours jusqu'à aujourd'hui à la rue. Et grâce aux associations françaises qui se montrent vraiment souciées, qui ont un cœur vraiment c'est grâce à eux que j'ai pu être logé chaque fin du mois. Ils payent et puis j'ai essayé un peu de vivre.
Je l'avais dit dans la dernière émission, c'était juste avant qu'on aille vous rencontrer à l'AG d'abord d'Exilés Crétois, puis après d'abord dans une réunion. Ah oui, entre les deux en fait. Et après, on est allé à l'AG.
Oui.
Et là, il y a vraiment, comme tu dis, un cœur qui bat collectif un peu dans l'association. Il y a beaucoup de... Déjà, il y a un cours de français hebdomadaire.
Oui, c'est ça.
Qui tisse beaucoup de liens quand on vous entend à l'association. Vous dites vraiment que c'est un fil conducteur un petit peu, cet apprentissage et ce partage d'expériences. Avec différents niveaux de français. Mais du coup, c'est l'occasion aussi pour certains d'aider sur d'autres aspects de la vie en dehors ou pendant les cours. Et puis l'hébergement, peut-être qu'on peut commencer à faire un petit point sur les associations. Normalement, on avait une invitée, d'ailleurs on la salue, c'est Odile Favra, si tu nous écoutes sûrement, qui n'a pas pu venir, qui normalement était censée intervenir aussi, qui est très engagée dans l'accueil de réfugiés depuis, je crois, de nombreuses années et qui en ce moment fait partie d'un collectif qui s'appelle Les Femmes en Lutte. On peut peut-être faire un petit point avec toi, Chris, et puis aussi les infos qu'on a sur les associations ici plus près de Cré. Et moi, j'ai eu la trame que forcément, toi, Chris, tu connais aussi.
La trame, je ne connais pas vraiment
okay.
trop.
Bon, bah, du coup, j'aurai l'occasion de vous présenter un petit peu ce qu'ils font et qui sont sur 10, qui n'ont que 2 ans d'existence. Qui c'est qui veut... Peut-être on commence par Exilés Crétois. Un petit peu
Oui, comme Chris est là, je propose que Chris, tu nous présentes, parce que depuis, tu t'es investi, tu es bénévole à Exilés Crétois. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu quels sont les axes d'intervention d'Exilés Crétois, ce qu'ils
peut-être
font.
Peut-être vos besoins.
Les valeurs, les besoins, enfin, comment ça fonctionne?
Bon, en fait, il y a trois étapes qui caractérise notre association. il y a premièrement la première rencontre avec Jean-Charles. Il prend connaissance du pays d'origine de l'exilé accueilli par l'association, de sa situation et écrit son histoire. Et nous avons l'hébergement. Il y a deux personnes qui sont chargées pour trouver l'hébergement pour les migrants, de pouvoir s'éloger. Et nous avons aussi appui à l'intégration sous plusieurs aspects. Il y a inscription scolaire pour les exilés qui ne sont pas reconnus mineurs et pris en charge par les départements. Nous avons les cours de français chaque mercredi à l'Hydre de 15h à 17h. Et nous avons l'aide juridique au dépôt des demandes des titres de séjour et suivi des recours avec Sorosa. Accès à l'aide médicale et accompagnement aux rendez-vous médicaux. Inscription aux aides alimentaires Resto du Cœur, Association Saint-Vincent-de-Paul. Recherche des travaux dans le cadre du CESI, chèque emploi-service. Voilà un peu les activités que notre association fait pour revivre la vie des exilés, la vie des migrants.
Bah, super, super topo. Ouais.
Alors justement, pour toutes ces œuvres, Chris, on va ça fait une ouverture sur une prochaine émission de Radio Saint-Ferriol qui sera le 19.
C'est une émission de la collective qui a lieu le mardi à midi, donc celle du 19 décembre, de midi à 13h. Ça sera sur la nouvelle loi Darmanin.
Donc un peu plus technique que comment ça fonctionne localement, quoi.
Ben, en fait, cette émission sera, il va y avoir une intervention de quelqu'un du GISTI, donc par téléphone de Paris, qui va reprendre exactement ce qu'il y a dans cette loi et ce que ça change par rapport à ce qu'il y avait avant. Et des intervenants d'associations locales dans le studio qui pourront interagir avec la collective le 19 à midi.
Ok. Et après, sinon, pour revenir sur les associations locales, tout à l'heure, je parlais de la trame. En fait, c'est un peu comme une sœur jumelle un peu d'Exilés Crétois. Elle n'a que 2 ans d'existence. Je ne sais pas, Exilés Crétois, vous savez depuis combien d'années elle est créée ?
Depuis 2020.
Ok. Donc, à peu près en même temps. Je crois qu'à Exilés Crétois, en moyenne, si on peut dire... Enfin, à un instant T, vous avez à peu près une quinzaine de personnes hébergées. Non, un peu moins, peut-être 11.
Une quinzaine.
Non, une quinzaine. Ah oui. Et c'est à la trame. Ils en ont moins pour l'instant. Ils sont sur 10. Et ils ont pour l'instant 2 vecteurs. Donc, pareillement, ils logent des gens.
Oui.
Ils les aident dans tout l'accès à leurs droits, en fait. C'est vraiment ça la question. Tout à l'heure, tu parlais vraiment d'hospitalité. On peut le traduire peut-être en langage moderne de accès aux droits. En tout cas, c'est très concret. Et c'est ça dont on a besoin en partie. Vraiment sur un langage un petit peu du militantisme. Et la trame. C'est donné comme mission d'aider les réfugiés autour de 2 activités qui sont la cuisine, enfin, comme une intégration économique un petit peu à travers la cuisine. Ils font des ventes à emporter, des ventes de repas à emporter et le jardinage et les espaces verts. Voilà. Et bien sûr, ils font un appel aux dons pour la fin d'année. J'imagine que Exilés Crétois et. Ah oui, je voulais en parler un petit peu. Quand on était à l'AG d'Exilés Crétois, c'était très intéressant. Bien sûr, ils sont ouverts, vous êtes ouverts à tous les dons possibles. Et puis, il y a ces possibilités d'avoir un soutien un peu mensualisé pour vraiment qu'eux, en fait, prennent conscience de quels moyens ils vont avoir financiers pour les mois à venir et ça les aide beaucoup. Donc voilà, si jamais vous vouliez faire un pas, vous pouvez y penser.
Et il y a cette question, je ne sais pas si tu peux en parler, de 3% ou 100 pour...
100 pour deux.
100 pour deux. Tu peux expliquer ce que c'est, s'il te plaît, parce que...
Les 100 pour deux consistent à mettre chaque fin de mois 5 euros par mois qui nous aident à payer les loyers. Et puis, nous avons d'autres dons qui nous arrivent d'ailleurs. Par exemple, il y a les frères Riache, Et les trésoriers savent bien expliquer c'est quoi RIACE, mais moi je me limite sur les 100 pour D. Ce sont des dons qui se donnent chaque fin du mois.
Donc si c'est 100 personnes qui donnent 5 euros
5 euros, ça permet de pouvoir répondre aux besoins des migrants.
De deux personnes.
Oui.
Et les hébergeants, par exilé crétois, touchent...
120 euros par mois.
Pour des hébergements longs, alors, si c'est un mois par mois.
Ah, okay. En fait, il y a deux hébergements. Il y a l'hébergement long et l'hébergement court. L'hébergement long, il donne 300 euros ou 200 ou encore 400.
Alors grâce à cette initiative de 100 pour 2.
Des 100 pour 2 et puis
le fonds
les Riace.
Et par Riace.
Et en fait, le fonds Riace, ça fait référence, alors si je ne dis pas de bêtises, à une ville d'Italie ou quelque
c'est
chose
ça.
Comme ça.
Oui, c'est ça.
Et c'est, par contre, la Trame m'expliquait, les salariés de la Trame m'expliquaient, maintenant c'est une association française et qui va soutenir l'hébergement long. Par ailleurs, on peut peut-être parler un petit peu du statut d'hébergeur. Ça, c'est vraiment, on est au cœur là, vraiment du quotidien d'exilés et crétois, c'est-à-dire la relation des personnes qui vont se dire, bah moi. Alors, il a bien été précisé que ne serait-ce que d'aider une nuit ou deux, ça peut vraiment aider. Mais après, il y a des gens qui sont dans ce temps long, et comme ça, on est plus en sécurité forcément si on sait qu'on va rester au même endroit plus longtemps. Est-ce que tu veux en dire quelques mots?
Oui, pour l'hébergement long, c'est en fait quand l'hébergeur ou l'hébergé se sent un peu capable de dire, bon, j'accepte la personne pour un temps long chez moi, mais je veux que chaque fin du mois, que l'association me paye quelque chose pour le bien de la maison, tout ça. Et cette personne, du coup, elle accepte l'héberger dans sa maison et en même temps, il apprend les valeurs, il lui transmet les bonnes manières et puis lui expliquer comment marchent les systèmes, comment marchent les choses en France. Connaître la culture, la langue, l'aider à ses problèmes administratifs. Lui faire travailler aussi
selon ses propres capacités, son propre temps, mais toutes les aides sont les bienvenues.
Oui, toutes les aides sont les bienvenues, surtout pour la personne qu'il héberge chez lui. Moi, là où je suis, la dame, bien qu'elle est déjà âgée, mais elle a encore sa tête sur terre, et cette dame me dit à chaque fois, Chris, tu vois, je cherche à te faire quelqu'un dans la société. Alors, il ne faut pas tout le temps passer ta journée devant l'écran, devant les portables. Non, il y a la bibliothèque.
Et oui, on peut être amené à se refermer. C'est ce qu'on avait échangé par ailleurs tous les deux et avec les autres. C'est que quand on a vécu un tel choc de la difficulté de l'accueil, on peut être tenté de se refermer et que c'est vraiment agréable de trouver des gens qui vont proposer un peu de vie, un peu de dynamique comme le fait Exilé Crétois, la Trame.
Il y a une autre association qui s'appelle VDAR, Valdrome Accueil Réfugiés, mais qui est un petit peu différente dans le sens que VDAR accueille des personnes qui ont le statut de réfugié.
Donc là, on est vraiment juste sur la thématique justement de cette intégration, mais pas dans cette urgence et ce stress-là d'avoir. Alors, Richard va intervenir tout de suite.
Il y a comme une case qu'on avait oubliée, c'est la case Sayanson.
Sayanson.
Et avec Voix Libre qui fait de l'hébergement inconditionnel, comme Exilé Crétois d'ailleurs. Et c'est tout à fait à leur honneur.
Présente-nous un peu la maison Elisa.
Je connais pas la maison d'Elisa, je suis jamais allé à Vercheny. Alors j'en dis.
Non, vas-y, je t'en prie.
Et moi j'allais.
Je peux faire une information avant que tu continues? En fait, puisqu'on parle de la maison d'Elisa, je renvoie nos auditeurs à l'émission encore de la collective qui a eu lieu le 5 décembre, qui était entièrement consacrée à la maison d'Elisa. Donc, wow. Vous pouvez retrouver en podcast sur le site.
Et c'était.
Excuse-moi d'avoir coupé la parole.
Ouais. Mince. C'était bien ce petit mix de différentes associations de la vallée de la Drôme là.
Ouais, on les avait notées, mais est-ce que
il y en a une autre qu'on a... Oui, on n'a pas parlé de Solid Arloc.
Oui, bien sûr.
Et Solid Arloc, c'est une association. Je ne fais pas partie de Solid Arloc, donc j'espère que je vais pas dire des bêtises ou qu'ils m'en voudront pas. C'est une association qui a eu un don d'une maison qui était dans un état très délabré et qui a retapé cette maison à Cray et qui héberge des gens qui sont en situation de précarité pour un temps court, de 6 mois à 1 an. C'est un tremplin un petit peu pour permettre aux gens de continuer.
Est-ce que Chris, tu as conscience un peu de l'état justement de l'accueil, très concrètement, on va dire, alors je ne sais pas si on peut dire de Montélimar-Adi, parce que c'est les villes qu'on a citées, mais un peu sur la région, est-ce que tu as conscience de l'état un petit peu de l'accueil, des besoins globalement ? Là, on a cité des associations, mais est-ce qu'on peut savoir en gros où on en est de cette qualité d'accueil, puisque c'est le thème de l'émission ?
C'est vraiment difficile parce que on n'arrive pas toujours, l'État n'arrive pas toujours à atteindre les besoins de l'accueil. Pourquoi ? Parce que déjà avec les demandeurs d'asile, l'accueil est limité. Il est limité. Pourquoi il est limité ? On ne sait pas. Un demandeur d'asile qui arrive, il fait ses démarches à la préfecture. On lui dit, bon, chaque fin de mois, tu vas recevoir les allocations. Tu n'as pas droit à travailler. Tu n'as pas droit d'avoir une formation. Donc, tu dois attendre jusqu'à ce que tu seras régularisé. C'est rendre quelqu'un malade. C'est rendre quelqu'un malade quand tu n'exerces pas les activités physiques et intellectuelles. Donc, je suis là, je me réjouis des allocations et en même temps, l'État me fragilise, l'État me paralyse, il me rend paresseux. Pourquoi ? Parce qu'il limite ma liberté. Et dans ce sens, moi, je vais le dire qu'un demandeur d'asile n'est pas totalement bien accueilli parce que ses libertés sont vraiment limitées. À mon avis, je pensais que l'État pourrait, dans la mesure du possible, mettre l'étude ou soit la formation ou chercher un travail pour les demandeurs d'asile afin de pouvoir se sentir un peu accueillant dans les activités françaises, dans les activités du pays. Voilà.
Quand, en fait, les demandeurs d'asile auraient le droit de travailler ? Ce serait une meilleure solution, enfin, qu'il y ait l'allocation tant que la personne n'a pas de travail. Mais en fait, ce que la plupart des demandeurs d'asile, enfin, tu me diras si je me trompe, mais en fait, cherchent à travailler.
Oui, bien sûr. Ils cherchent à travailler et puis avoir une formation. Parce que les allocations, elles ne suffisent pas.
Elles sont de combien, les allocations ?
Pour certains, c'est 200 euros quand ils ont un logement donné par l'OFI. Et pour ceux qui n'ont pas de logement et qui sont seuls, ils bénéficient 426 euros comme ça. Et pour deux ou trois couples, ils en ont plus. Mais ça ne suffit pas.
L'argent ne fait pas le bonheur.
L'argent ne fait pas le bonheur. Donc, à ce sens-là, l'État doit préconiser surtout la formation et puis le travail pour les personnes qu'ils accueillent. Sinon, ils deviendront des délinquants. Ouais. Parce qu'ils restent là sans rien faire, attendre, je sais qu'ils seront régularisés.
Oui, il y a ce problème là sur les formations en alternance. C'est quelque chose qui est assez facile dans une scolarité d'arriver jusqu'à la porte d'une formation en alternance. Et bien souvent, la porte se referme parce que les employeurs ne sont pas au courant de leur possibilité déjà de proposer une alternance à quelqu'un qui est encore dans le cadre d'une demande d'asile. L'État est vraiment un frein sur les migrants mineurs qui arrivent dans leur scolarité à freiner parce que les choses ne sont pas faites en leur faveur sur ces alternances qui sont...
Je me rappelle d'un témoignage où on disait que... Je crois que c'est dans un des documentaires que j'ai pris à la médiathèque, là, de Cré. J'en ai pris trois, je crois qu'il y en a beaucoup d'autres, où il y avait quand même quelque chose qui se débloquait facilement. C'était vraiment pour les... Alors, je ne sais pas jusqu'à quel âge, mais en tout cas, pour les plus jeunes, même si on n'a pas d'accès à plein de choses dans l'ordre de la famille, etc., mais en tout cas, les écoles, elles ouvrent très facilement leurs portes. C'est les témoignages que moi, j'ai entendus. Et je me permets, comme tu parlais d'alternance et que j'ai un sens de la transition, d'alterner avec un peu de musique jusqu'à ce qu'on reprenne. Et donc, on va écouter maintenant une autre chanson qui s'appelle Réfugié. C'est Yanis Odua.
Tout quitte et tout lâche et qui voudrait devenir réfugié, oui. Aux portes de nos villes qui prennent le temps d'écouter les réfugiés, wow, wow, wow. Si demain vient la guerre, on peut devenir des réfugiés, wow. Que deviendront ces hommes? J'ai grandi sur les bords du Tigré, en banlieue de Mossoul. Dans ma chambre, quelques livres, un poster de Massoud. Ce soir, les murs vibrent sous les tirs de missiles. On essaie de survivre puisque vivre est impossible. Mes enfants n'osent plus dormir, ils veulent que je les rassure. Comment leur dire que moi aussi j'ai peur? Ma femme me dit qu'il faut partir, que rester là n'est pas sûr. Nous sommes encore à la merci des passeurs. Y'a que la money pour nous faire quitter la vie. Quand Daesh a mis des mines qui font des milliers de victimes. Donc j'ai mis mes économies pour payer le passage. Tant pis s'il faut tout lâcher, n'emporter aucun bagage. J'envie ces terres épargnées qui ne connaissent pas l'orage. Et même si dans le regard de certains je ne sens que de la rage. Tout quitte et tout lâcher qui voudrait devenir réfugié, wow. Aux portes de nos villes qui prend le temps d'écouter les réfugiés, wow, wow, wow. Si demain vient la guerre, on peut devenir des réfugiés, wow. Que deviendront ces hommes?
Moi j'ai grandi dans ce paysage où le soleil pour l'horizon entre le Tchad et le Soudan, Sahel. Contrainte de quitter mon village, ma famille, ma maison, sur moi le poids de messages. Yeah. De bataille en bataille, je me rappelle des pillages, des guerres, des clans, des tensions. Yeah. Ça fait des jours qu'on marche, j'ai sommeil, on m'a parlé de l'esclavage. Yeah. Des clandestins en détention, des bateaux qui font naufrage, mais j'essaie, yeah, maman. Pour toi, je suis parti car mon destin m'attend là-bas. Ne pas se retourner, regarder vers l'avant, crois-moi. Je me demande si j'en sortirai vivant. Et souvent, je me dis que c'est pire ailleurs et tout le temps. Je rêve d'un avenir meilleur au Soudan. Je repense à la terre de mes aïeux et soudain, j'ai peur de devoir vous dire adieu. J'ai peur de devoir vous dire adieu.
C'est tout lâcher qui voudrait devenir réfugié, wow. Aux portes de nos villes qui prend le temps d'écouter les réfugiés, wow, wow, wow. Si demain vient la guerre, on peut devenir des réfugiés, wow. Que deviendront ces hommes?
Ils ont traversé la terre, le désert et la mer.
toi tu crois qu'ils sont venus te faire la guerre. Mais tu perds tes repères, ton humanité. Tu répètes à tue-tête des banalités. Faut que t'arrêtes, tu t'entêtes dans l'obscurité. T'es tout seul dans ta bulle d'insécurité. Tu nous dis que la France c'est la fraternité, c'est l'accueil, c'est la chance et c'est l'égalité. Tu te poses en modèle de modernité, mais accuse ton délit de solidarité. Ouais, j'ai mal quand je vois ces familles qui dorment dehors. Tout quitter, tout lâcher, qui voudrait devenir refugee, boy. Aux portes de nos villes qui prend le temps d'écouter les refugees, boy. Si demain vient la guerre, on peut devenir des refugees, boy. Que deviendront ces hommes? Tout quitter, tout lâcher, qui voudrait devenir refugee, boy. Aux portes de nos villes qui prend le temps d'écouter les refugees, boy. Refugee, que deviendront ces hommes? Tout quitter, tout lâcher, qui voudrait devenir refugee, boy. Aux portes de nos villes qui prend le temps d'écouter les refugee, boy. Si demain vient la guerre, on peut devenir des refugee, boy. Que deviendront ces hommes? C'est tout lâché qui voudrait devenir refugee, boy. Aux portes de nos villes qui prend le temps d'écouter les refugee, boy.
On est de retour sur Radio Saint-Ferréol, ici d'ailleurs, 94.2 FM. Et on parle avec Chris de l'accueil et malheureusement souvent du non-accueil. On va changer un peu de sujet, mais toujours en restant sur les carences de l'État, qui fait un frein à ce que la société civile puisse pleinement s'engager auprès des migrants. Donc c'était une discussion avant la pause sur ce qui se passe et exactement sur le droit d'asile aux frontières. Qui est un droit, le passage de la frontière et quelque chose qui est garanti par l'article 53 de la Convention de Genève, hein, le non-refoulement, voilà, doit être respecté pour toute personne en quête de protection. Bon, après, il y a toutes les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui s'appliquent aussi. Mais en tout cas, nous, on a, enfin, à Radio Saint-Ferréol, on a une petite dent contre le procureur de Gap. Et c'est marrant parce qu'on n'est pas les seuls. Le président de la commission d'enquête parlementaire sur les migrations, Sébastien Nadeau, enfin Monsieur Sébastien Nadeau, a lui aussi effectué un signalement au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale pour dénoncer les agissements de la préfète des Hautes-Alpes. Donc la préfète des Hautes-Alpes, voilà. À la frontière, notamment pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Ça, c'est la situation actuellement au 15 novembre 2021. C'est encore la situation actuelle. Et ce que je voulais pointer, c'est que ces personnes-là, malheureusement, la préfète de Gap, malheureusement, elles ont pignon sur rue et elles utilisent aussi des créneaux médiatiques pour s'exprimer et pour faire valoir leur droit à mener la vie dure et donc relativement en hors cadre législatif aux migrants. Alors même si cette personne a été sujette d'un signalement de la part de la commission d'enquête parlementaire sur l'immigration, Elle s'est exprimée au Dauphiné libéré en octobre 2018 en disant « Je ne suis pas d'accord avec l'expression « délit de fuite ». Le reste des règles fondamentales s'applique. Quelqu'un, même en maraude, trouvant un étranger dans la neige, qui est de l'autre côté de la frontière ou qui vient de la franchir ou qui est côté français et constate que l'intéressé est en grande détresse, son devoir, c'est de lui porter assistance. On n'est même pas sûr, est-ce que vous avez le droit ? Vous avez le devoir de lui porter assistance. Voilà, donc on a ces déclarations et on a une pression policière constante sur les maraudeurs. Des arrestations arbitraires au titre de feux pas éclatés, de pas éclairés, pardon, de pression des pneus insuffisante, je crois 600 € d'amende pour une marche arrière.
Il y avait Bernard Friot là que j'ai écouté tout à l'heure, mais il intervenait début novembre et il disait que c'était 60 000 € par jour qui étaient investis dans la lutte contre la migration dans la région du Sud-Est. Et que lui, il a pris le train sur 9 km et il a vu peut-être une quinzaine de contrôles. Pour donner un ordre d'idée. À propos de chiffres, parce que c'était un gros débat, est-ce qu'on tombe pas dans le manque de considération quand on chiffre la sidération ? C'était très intéressant par ailleurs. On a noté une différence de chiffres, justement. Si on écoute le maire de Briançon, on est à 300 personnes qui essayent de passer à Briançon tous les jours. Et puis, on s'est renseigné 5 minutes. On était tous les quatre à travailler chez Richard l'autre jour. On se rend compte, selon les bénévoles qui font un super travail d'accueil et de protection de l'individu et du réfugié, qu'en fait, c'est plutôt des moyennes de l'ordre de, si je me rappelle bien, 10 personnes par jour et qu'il y a eu...
Radio France prenait le chiffre de 30 la moyenne et la personne de l'association Les Terrasses à Briançon avait dit qu'il y avait eu, mais elle le présentait justement comme un peu une journée très spéciale et très au mois d'août et qui était un peu la journée catastrophe.
Il y a eu 300 personnes sur deux jours.
Ouais. Et le maire de Briançon a repris comme quoi il faut se méfier des chiffres en général et bien les vérifier.
Très bon réflexe qu'avait eu Sarah en disant il faut se méfier des chiffres et c'est toujours bon à savoir. Toujours un chiffre pour les terrasses, ils ont une capacité d'accueil, je crois, de 80 personnes et ils ont en flux tendu, comme on dit, à peu près le double pour les accueillir. Richard, t'as recueilli la parole d'un maraudeur.
C'est quoi un maraudeur ?
Alors voilà, concrètement, de nos jours, dans ce contexte précis, ça correspond aux personnes qui vont aller rencontrer d'autres personnes qui essayent de passer, en France, et de les aider à trouver les bons endroits, d'être chauffés s'ils ont besoin d'être chauffés, d'être alimentés.
Enfin, je fais juste une précision. Pour moi, les informations que j'ai, les maraudeurs ne vont pas les chercher à la frontière. Ils sont dans la zone en France. C'est-à-dire que les maraudeurs jamais n'aident pas au passage de la frontière.
Okay.
C'est qu'ils recueillent des gens qui sont en grande détresse après avoir passé la frontière ou qui cherchent ou qui ont juste sont arrivés en France et
peut-être je lis le témoignage et après Richard tu rebondis dessus.
Je vais commencer par par le témoignage d'une infirmière et maraudeuse pour Médecins du Monde à Briançon. La personne nous alerte sur la raréfaction du nombre de places d'hébergement d'urgence à la frontière haute. Donc la frontière haute, c'est Briançon, à 10 km il y a la frontière, et directement de l'autre côté de la frontière, c'est le Val de Suse qui mène à Turin. Donc cette frontière haute, elle est empruntée depuis des millénaires. Au 15e siècle, il y avait d'ailleurs une république transfrontalière qui a duré 450 ans. Et on est toujours dans l'héritage de cette, linguistiquement notamment, de cette république-là. Donc la frontière est vraiment un lieu de passage historique qui aujourd'hui est contrôlé de façon vraiment exceptionnelle. Pour reprendre le témoignage, le nombre de places d'hébergement qui est très limité, alors que le nombre de passages de la frontière ne diminue pas. Donc bon, ça c'est pas facile à dire sur 2023, nous n'avons pas encore les chiffres, mais sur, en tout cas sur, depuis le confinement, il n'y a pas eu de vraie diminution. Elle nous alerte aussi sur la diminution de leur droit à une aide médicale adaptée. Alors quel parcours pour échapper à la police aux frontières, aux gendarmes ou aux militaires, en poste à Briançon dans le cadre de l'opération Sentinelle? Des chemins de plus en plus escarpés et dangereux, cause de traumatismes musculo-squelettiques ou psychologiques, etc. Ces maraudes sont en priorité un moyen de diminuer les risques associés à cette répression dangereuse pour les personnes isolées et fatiguées. Elle insiste sur ce fait. Ce n'est pas la montagne qui est dangereuse, ce sont les forces répressives qui la quadrillent. Son objectif est donc aussi de témoigner contre la mise en danger des personnes par ses forces. Et pour ce faire, il y a un formulaire de témoignage disponible sur un site du gouvernement français qui permet de témoigner donc librement contre les agissements de la police aux frontières, notamment. Ces témoignages nourrissent les plaidoyers politiques d'autres associations comme ceux de Human Rights Watch, de la CAFI, Coordination des actions aux frontières intérieures, ou de l'ANAFE, Association nationale d'assistance aux frontières par les étrangers, etc. Elle veut sa présence aux côtés des migrants la plus discrète possible. C'est pour elle un moyen de concentrer son attention contre les éventuelles entraves aux droits par les forces de l'ordre. Elle participe aussi à d'autres moyens de pression contre les dérives des pouvoirs publics, contre les manifestations de l'association Tous Migrants. Celles-ci lui permettent aussi de prendre du recul par rapport aux événements qu'elle vit quotidiennement pendant ses maraudes. Recul indispensable pour préserver chaque histoire personnelle de cette épreuve.
Ok, bah j'enchaîne avec le témoignage de l'autre maraudeur que tu as rencontré. Ok, donc là on parle de quelqu'un qui maraude depuis 5 ans, toujours à Briançon. Qui, quand tu l'interviews, est justement de retour de Briançon le jour même de l'entretien. Il est épuisé par ce qu'il y a fait, vu et entendu. Il nous parle en premier de la nouvelle loi contre l'accès aux soins des personnes migrantes pour lesquelles une permanence d'accès aux soins de santé existe actuellement. Avec cette nouvelle loi, par contre, cette aide médicale d'État se réduira à une aide médicale d'urgence. Puis, il nous parle de la mise en place récente d'une border force consistant en une alliance entre la police aux frontières, la gendarmerie et finalement les forces militaires. On voit vraiment un système d'oppression, tu l'as très bien dit au début, Chris, c'est vraiment une politisation, et je l'ai cité tout à l'heure avec le budget dans la région de M. Ciotti, pour reprendre l'expression de Bernard Friot. Donc toujours le maraudeur, il a récemment participé à une manifestation contre ses patrouilles et contre la mise en danger des personnes qui en découlent. Après la mort le 28 octobre d'une personne dans une course-poursuite. Celle-ci a commencé contre 4 personnes, la course-poursuite. 2 parmi elles avaient un téléphone et ont pu échapper au drame. 2 autres n'en avaient pas et se sont perdus jusqu'à ce que l'un d'entre eux chute et meure noyé dans la Durance. Un communiqué à ce sujet existe, sur le site internet tousmigrants.org. Peut-être à la fin on diffusera ou juste on lira un de leurs appels à aller sur place pour manifester. Après cette lumière sur la situation à la frontière près de Briançon, le maraudeur te confie que son investissement est un élan pour dire simplement « bienvenue à tous les migrants ». Un élan qu'il sait subversif à l'encontre des politiques aux frontières. Il reste lui-même vigilant à ne pas tomber dans une posture de sauveur blanc, malgré la difficulté qu'il trouve à se défaire du racisme intériorisé, commun. Il a aussi été en contact avec des personnes enfermées dans des centres de rétention administrative, les CRA ou CRA. Il y a vu des choses horribles avec un déni choquant du niveau de violence contre les personnes enfermées. Ce qu'il décrit comme un lieu d'enfermement concentrationnaire ne fait pas honneur à ceux qui y travaillent. Il pense tous les jours à ces migrants enfermés, un peu comme le témoignage de Lisa.
Qui repense à Calais et aux gens qui vivent là-bas tous les jours.
Elle se demande comment ils trouvent le sommeil et à quoi peuvent-ils rêver. Et le maraudeur reconnaît l'inhumanité de ceux qu'ils y vivent. Son dernier message est celui de ne pas s'épuiser dans l'aide aux migrants et migrantes. Il souhaite que pour lui comme pour les autres, cet engagement puisse durer dans le temps. La troisième chanson, qui s'appelle « Toujours réfugié », est de Julien Clerc.
Réfugié, tu as tous les droits. Marcher à quatre pattes ou au pas de loi. Réfugié, tu n'as plus de loi, plus de terre ou de combat. Avoir des droits, avoir un toit. Essayons un jour l'amour. Le jour où chez nous tu seras chez toi. Réfugié, réfugié, nous sommes tous, tous, tous des réfugiés. Bien sûr, on peut t'oublier, renoncer même au passé. Et abolir la mémoire. Comment faire un livre d'histoire. Avoir des droits, avoir un toit. Essayons un jour l'amour. Le jour où chez nous tu seras chez toi. Réfugié, réfugié, nous sommes tous, tous, tous des réfugiés. Hiver, printemps, automne, été, nous sommes tous des réfugiés sur cette terre qui est notre terre, qu'il faudra bien un jour partager. Avoir des droits, avoir un toit. Essayons un jour l'amour. Le jour où chez nous tu seras chez toi. Réfugié, réfugié, nous sommes tous, tous. Nous sommes tous, tous, tous des réfugiés.
Yes, on est toujours sur Radio Saint-Ferréol avec Richard, Sarah, Chris et moi-même. Et on fait une émission passionnante sur le thème et la réalité de l'accueil ou du non-accueil, en tout cas des difficultés qu'on a à accueillir, et aussi les facilités, puisqu'il y a quand même des belles histoires qui se nouent. Je voudrais vous faire un petit point sur, sur comment, en fait, au-delà de toutes les réalités qu'on peut vivre, j'ai regardé un documentaire que j'ai emprunté à la médiathèque de Cré, très intéressant, qui s'appelle, je vais le retrouver, c'est juste là, Un marché sous influence, un documentaire de 2017 qui a été demandé par le Sénat français. Donc on peut au moins leur reconnaître ça. Ils ont essayé, mais ça n'a peut-être aucune influence pour le coup, mais ils ont essayé de pointer du doigt toutes les économies qui se mettent en place et la réalité des camps de rétention. Moi, j'arrive pas à trouver, peut-être c'est pas les bons mots exactement, mais un peu partout sur la planète, il y a des camps énormes Et il y a des gens, ça fait trois générations qui sont dans ces camps-là parce qu'ils n'ont pas la liberté d'aller ailleurs. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux, ils ne peuvent pas aller plus loin. Et il y a des supermarchés dans ces camps-là. L'ONU tolère le bénéfice, mais le contrôle, elle le limite dans ce cas précis pour un supermarché dans un camp de Turquie. Oui, c'est ça. Où il y a 80 000 habitants, elle le limite à 3% de bénéfice. Mais il y a aussi tout l'aspect biométrique et on voit des salariés de l'ONU qui quittent leur poste pour dénoncer cette réalité-là où il y a des gens qui testent la biométrie, donc c'est-à-dire que l'identité va être prouvée par l'iris de l'œil et les courses vont être faites en montrant son œil dans des machines. Et l'ancien salarié de l'ONU de dénoncer le fait qu'en fait on teste une politisation un petit peu technique pour le contrôle des populations, sur ces populations qui sont quasiment apatrides. Je ne sais pas si on peut dire ça aussi catégoriquement. Voilà. Et c'était bien malheureux. Et il y a beaucoup de reportages très intéressants pour apprendre sur le thème de l'exil à la médiathèque de Creil. Je vous invite à aller voir ça.
Vous pourrez trouver sur le site de la radio de notre émission, on mettra toutes les références musicales et les différents documentaires que vous pourrez trouver à la médiathèque de Creil.
Je voulais refaire un petit point suite à ce que tu disais, Jean-Denis, au sujet du Sénat. Moi, j'avais noté quelque chose qui m'avait un peu choqué au sujet de la nouvelle loi d'Armanin. Moi, j'ai noté vraiment qu'il bafouait la Convention de Genève sur les réfugiés. Et aussi un arrêt de la Cour de cassation donc de septembre 2017. Si on lit la loi qui est en cours là, pour des migrants qui seraient soumis à un règlement Dublin, dans ce cadre il y aurait la possibilité de l'assigner à résidence, notamment dans le cadre des hébergements de type départ. C'est pas une blague, il y a bien un hébergement dans les textes de loi français qui porte ce nom-là. Je crois que c'est les dispositifs de préparation au retour. Voilà ce que ça veut dire départ. Et donc l'arrêt de la Cour de cassation, pourtant en septembre 2017, disait qu'en l'absence de définition légale de la notion de fuite propre à la procédure Dublin, les demandeurs d'asile en attente de transfert ne peuvent plus être placés en rétention. Donc voilà, il y a comme un aller-retour gouvernemental ou permanent. Et moi, je suis bien désolé de ce fait-là. Et cette loi m'apparaît en contradiction avec les règles qui sont rappelées là par l'arrêt de la Cour de cassation. C'est les dispositions de la Convention de Genève sur les réfugiés.
Enfin, moi, j'aimerais passer aussi un dernier coup de gueule. C'est en préparant cette émission, très très brièvement, je suis tombé donc dans un de ces fameux documentaires que j'ai visionné sur comment les passeurs vivent éhontément de la misère d'autrui et vont faire du chantage en plein exil. Ça sera dans la liste, vraiment, je vous conseille de voir Midnight Travelers. C'est un cinéaste syrien qui a dû fuir la Syrie parce qu'il était menacé de peine de mort. Et il filme avec sa femme qui est cinéaste aussi, leur exil qui dure longtemps, ils ont deux petites filles, et les passeurs de faire du chantage sur la vie des petites filles pour avoir plus d'argent. Voilà, pour vous mettre un peu dans un contexte réaliste sur les difficultés de l'exil. On a aussi un petit appel à faire rapport justement à la fête de la fraternité qui aura lieu le 18 décembre. Donc c'est un appel qu'on a trouvé sur le site tousmigrants.wikbly.com. C'est la journée internationale des migrants. Donc cette année, cette journée sera placée sous la menace de la loi Darmanin. Sur le territoire briançonnais, cette loi signifie un accroissement des risques encourus par les personnes qui tentent de passer la frontière. Chaque jour, assez de morts et d'accidents. 3 décès tragiques entre août et novembre 2023. Et une mise sous pression de la population par la présence de forces de l'ordre qui effectuent traque, contrôle et de refoulements illégaux. Voilà, je vous laisse lire la suite de cet appel sur le site tousmigrants.wiggly.com et pourquoi pas vous déplacer jusqu'à Briançon le 18 décembre. Je sais, on garde le meilleur pour la fin. Chris, c'est toi qui vas avoir le mot de la fin.
Ok, merci, merci beaucoup pour les derniers mots de l'accueil. Donc, en fait, nous avons parlé de notre fameux sujet qui est accueil. Et je me pose la question, qui accueille? Quel est le but fondamental? Quelles sont les dispositions que l'État met ou les personnes accueillent mettent pour qu'il ait un accueil favorable aux migrants? Reconnaître l'autre, c'est s'ouvrir à la porte des conditions, des possibilités ou suffisantes d'accepter l'autre comme soi-même. Ça, c'est une phrase fondamentale qui résume en fait notre sujet. Et sans l'humain, sans l'autre, sans la présence de l'autre, l'accueil est bloqué. Alors, qui est humain? Un humain n'est pas seulement celui qui est sage, qui possède de l'intelligibilité, mais plutôt un humain, c'est celui qui a un cœur d'amour, un cœur animé de la bonne volonté de pouvoir accueillir l'autre comme soi-même. L'altérité. Accepter l'autre. Malgré ces différentes situations, malgré ces problèmes, malgré sa culture, malgré les différentes difficultés qu'il a traversées, pour celui qui s'est dit humain, atteint alors la tranquillité, atteint alors l'essence du bien-être, l'essence d'accueil. Merci beaucoup.
Merci à toi, Chris, pour cette très belle conclusion et pour toute l'émission.
Vous êtes bien sur une émission de Radio Saint-Ferréol.
Ici et d'ailleurs, une émission sur les migrations.
Migration d'ailleurs vers ici, d'ici vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
Un invité.
Son témoignage.
Son parcours.
Son expérience.
Des chroniques.
Géopolitiques.
Juridiques.
Linguistiques.